Loisirs,
détente,
spectacle, tout le programme festif de votre week-end
en quelques minutes sur RDA.
Écoutez tous les vendredis
l'émission La Vie Locale.
Et bienvenue dans une émission spéciale de La Vie Locale. Nous ne sommes pas vendredi, nous sommes bien mardi. Vous n'êtes pas trompé de jour. Et bien aujourd'hui, je reçois des membres de l'association Gascogne sans poids lourd. Donc je reçois Madame Corinne Fournier, qui est présidente de l'association. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes accompagnée de Marianne Laborde, qui elle est vice-présidente de Gascogne sans poids lourd.
Bonjour, bonjour
madame. Vous n'avez pas amené le soleil, hein? Donc vous êtes ici pour nous parler de cette association. Donc cette association, pouvez-vous me dire en quelle année elle a été créée?
Elle a été créée tout début de l'année 2018, décembre 2017,
oui.
Après l'opération Escargot qui a été menée le 7 novembre 2017.
Oui, on va en parler, on va y venir après.
Non, c'était pour vous donner tout simplement le pourquoi du comment, où on s'est
D'accord.
tous retrouvés sur ce lieu et là on a pu communiquer ensemble. Donc cette association s'est créée à cette date-là.
Très bien. Et qui a eu l'idée justement de créer cette association? Est-ce que c'était une idée qui vous travaillait depuis un petit moment, avant, quand même avant l'opération Escargot?
Déjà, moi j'étais membre du collectif qui est né en février 2015.
D'accord, on va en parler aussi.
Suite à l'interdiction des poids lourds sur la D6.
D'accord.
Voilà, donc après on a notre cher Christian Clézac qui a mené tambour battant pour réunir tout le monde pour créer aussi cette association.
Très bien, donc c'est quoi l'objectif justement de cette association?
Je laisse la parole
Patricia?
À ma vice-présidente.
Marianne, pardon.
Non, je vous en prie. Non, l'objet, les statuts ont été exactement déposés en février 2018 en préfecture. Et nous avons, comment dire, dans le membre du conseil d'administration fondateur, un certain nombre de gens connus dans le GER. Oui, Christian Clézac est l'âme de la fondation de cette association, avec moi-même et Corinne Fournier. On s'est rencontrés à l'occasion de l'opération Escargot. Et donc, vous avez particulièrement dans le bureau de l'association, monsieur Maître Barès, notaire, qui est bien connu. Vous avez donc Christian Clézac, Corinne qui est notre présidente, moi-même qui suis vice-présidente et conseiller technique, on y viendra. Et donc vous avez également une autre personnalité locale, Jacques Barthes, qui est notre trésorier en chef, assisté de l'ancien vétérinaire qui est monsieur Filali.
Oui.
Voilà, donc, comment dire, de la nouvelle secrétaire qui est madame
Danielle
Gacoin. Donc, on doit dire que nous formons une belle équipe et qu'on s'entend bien, on pourrait le dire ça, et c'est pas du tout un propos, comment dire, de circonstance, on s'entend vraiment bien. Et des liens, comment dire, de cohérence sont intervenus entre nous, on s'est rendu compte qu'on était assez complémentaires dans les caractères et dans les capacités.
Voilà. D'accord, donc chacun a amené ses idées.
Chacun a amené, en tout cas, son caractère, sa force de combat et sa détermination.
D'accord.
Et l'idée est donc, comment dire, au terme de notre statut article 2, de mettre un terme à la circulation des poids lourds, hors, bien entendu, des charges locales, voilà, de plus de 7,5 tonnes qui circulent sur cette départementale dès 931. Et nous demandons au maire et au conseil départemental de prendre un arrêté conjoint d'interdiction sur ce tonnage.
Très bien. Est-ce que vous êtes affronté à ce problème personnellement des poids lourds?
Tous.
Sans doute.
Tous dans oui. le bureau, dans... Oui. Dans...
Sans doute, oui. Puisque, comment dire, pour ma part, je suis avocat à Paris, mais je partage
vous
mon
venez
temps...
souvent à Nogaro.
Voilà, je partage mon temps entre Paris et Nogaro, qui est ma maison familiale depuis 45, sur la place des Arènes. Et donc, je suis directement impacté et je vois un
balai. Ah oui, si vous êtes aux places des Arènes.
Incessant de poids lourds passer devant chez moi, sachant pour l'anecdote que, par exemple, il m'arrive la nuit d'être à plusieurs reprises réveillé à 2h du matin sur d'énormes, de gigantesques poids lourds dans des frigorifiques, dont certains ont des plaques d'immatriculation 40, et que vous savez qu'en plus sur un frigorifique, vous avez des moteurs qui doivent tourner. Donc, ils le prennent pour une aire de stationnement. Voilà. Donc je suis particulièrement impacté, évidemment, on ne fait pas les choses pour la gloire, Je laisse Madame Fournier expliquer ses mésaventures.
Moi, je suis hôtelière restauratrice à l'UPVIOL. Donc, moi aussi, c'est un combat aussi pour mon commerce.
Vous êtes confrontée personnellement.
Moi, je vis aussi le long de la départementale, auquel je suis confrontée également à des stationnements de tout type, même gros convois sur le parking de l'UPVIOL. Qui tourne toute la nuit, qui démarre la nuit, des discussions la nuit, jusqu'aux infractions même qu'ils peuvent se permettre de faire, c'est de se stationner à tel point que le jour et l'heure, ils y sont encore, et que les bus scolaires sont obligés de...
De changer de place parce que...
Non, mais même pas, c'est changer de place, ils n'ont pas le choix, ils s'arrêtent sur la route. Pour prendre les enfants.
D'accord, ah oui, voilà. Quand même, en plus ça roule là.
Alors, c'est un parking qui est aménagé avec un grand panneau explicatif que de telle heure à telle heure, interdiction de stationner pour les poids lourds, pour la ramasse scolaire, qui n'est aucunement respectée.
Qui n'est pas respectée. D'accord. Pouvez-vous nous donner en chiffres le nombre de camions qui passent par jour sur nos garous?
Ben nous, dans les comptages qu'on nous a énumérés, c'est autour de 900 camions
par jour. Voilà. C'est énorme.
Voilà.
Et le tonnage des camions?
Aussi de plus de 7,5 tonnes, parce que pour vous donner une ordre d'idée, tous ces gros semi-remorques avoisinent entre 35 et 45 tonnes. Donc on est vraiment au-delà des plus de 7,5.
D'accord. Est-ce que vous êtes bien touché par rapport au restaurant? Est-ce que vous avez des fissures? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez petits dégâts?
Tout le monde, le long de la route, est impacté. Il n'y a pas que moi. Je ne veux pas parler que de moi, loin de là.
Non, mais je vous demande
parce que c'est vous qui êtes là. Ça fait des tremblements au sol. Les routes ne sont pas du tout adaptées pour ces poids-là.
C'est ça.
Et ils ne respectent pas du tout la vitesse. Donc, automatiquement, ça engendre des dégâts importants pour le département, pour les communes et pour les riverains. Voilà.
Très bien. Vous avez mené une opération Escargot, c'était le 7 novembre 2017. Est-ce que, eh bien, vous avez créé l'association juste après? Est-ce que des choses ont changé depuis? Est-ce que ça a avancé?
On a fait quand même bouger beaucoup de choses suite à ce qui s'est passé ce 7 novembre, que Philippe Martin est venu prendre la parole à la fin du défilé, et agréablement surprise quand même ce jour de 7 novembre de voir autant de gens qui se sont impliqués à faire cette opération Escargot. Nos espoirs ont été plus que gratifiés.
D'accord. Donc, cette opération Escargot, elle avait débuté, c'était à quel an de... Elle partait d'où?
Alors, bon, par rapport aux mesures de sécurité qui ont été mises à la préfecture, d'un côté, c'était parti de Manciette jusqu'à Nogaro, et de l'autre côté, côté Barcelone du Gers, c'est parti à la sortie, quand on part de Barcelone du Gers, c'est à la sortie de Vergoignan jusqu'à Nogaro, qui s'était arrêté en face le Solenka.
Oui, c'est ça, au point.
Au parking, en face le Solenka.
Je me rappelle très bien, oui.
Il faut préciser que cette opération Escargot n'a pas été organisée par l'association qui, à l'époque, n'était pas créée.
Mais non, parce qu'elle n'était pas créée.
Mais en partenariat, en réalité, celui qui a impulsé l'opération Escargot, c'est monsieur le maire de Nogaro, en partenariat, si j'ai bien compris, avec le collectif qui, à l'époque, était animé notamment par Madame Fournier, ici présente, et également par plusieurs autres, je crois, membres très actifs du collectif, Corinne.
Oui, et puis notamment les maires, tous les maires riverains.
Tout à fait. Et probablement, je crois, aussi l'adjointe au maire de l'UPVIOL également.
Qui était avec moi, qui m'a toujours suivie au tout début, Madame Caroline Vincent, dans le collectif, et qui est toujours dans le problème jusqu'au bout, parce qu'elle aussi, elle fait partie des riverains, même si elle n'est pas au bord de la route. Elle est dans une mairie où, au jour d'aujourd'hui, elle s'aperçoit que ça coûte une fortune aux communes. Et puis, bon, c'est pas du tout tolérable.
D'accord. Quelles sont les démarches à ce jour, eh bien, justement, que vous avez accomplies? Vous avez fait des...
Alors, sur ce point, on a décidé, c'est une stratégie que nous avons adoptée dès le départ, d'aider au maximum les maires. C'est-à-dire de coopérer avec eux de façon loyale pour essayer de faire avancer ces arrêtés d'interdiction, puisque c'est l'objectif que nous nous fixons. Donc, je pense qu'on a eu, en toute modestie, un apport important, en ce sens que nous savions que ces prises d'arrêtés si vous voulez, pose des problèmes juridiques, en ce sens que on sait parfaitement que ces arrêtés d'interdiction sont attaqués très majoritairement par les syndicats de poids lourds. On s'est mis en rapport, en tout cas par mon intermédiaire, dès qu'on a été fondé, et même un peu avant, avec des avocats qui sont en charge.
Vous êtes bien placé.
Oui, voilà. Et c'est effectivement, là, j'ai vraiment été, extrêmement bien traité par ces avocats. Singulièrement, je me suis mise en charge, je me suis mise en rapport immédiatement avec le cabinet Lyon-Camp-Thiriez de Paris, qui est un cabinet extrêmement important, Conseil d'État à la Cour de cassation, et spécialisé notamment en droit public, qui est en charge du dossier du Conseil départemental des Landes. D'accord. Si vous voulez, on va en reparler.
Oui.
Et je me suis mise également en rapport, dès que je les ai identifiés, premièrement avec le maire de La Roya, qui est un maire extrêmement courageux, qui a motivé 4 autres maires de la vallée de La Roya. C'est une vallée qui donc jouxte directement, si vous voulez, le territoire italien, une vallée magnifique, qui était absolument massacrée par les poids lourds aussi, en plus avait la dangerosité pour les conducteurs de poids lourds et pour les automobilistes qui osaient les croiser. Donc il y a eu 5 maires extrêmement déterminés, sous la houlette du maire de La Roya. Et ces 5 maires, contre le préfet, contre l'avis du préfet, ont dit, ok, nous on y va, on les prend. Bon, et donc, si vous voulez, donc il y a eu, là aussi, ces arrêtés d'interdiction ont été attaqués par le préfet, là.
D'accord.
Et par des syndicats de poids lourds italiens. Et pour l'instant, en tout cas, ces 5 maires, l'hardiesse de leur action, est complètement couronné de succès, parce que premièrement le préfet s'est retiré du contentieux, et deuxièmement les arrêtés d'interdiction sont en vigueur depuis plus de 18 mois aujourd'hui, donc on peut, quand on veut, on peut, et ça peut, bon, et donc voilà, donc on a amené toute cette, si vous voulez, connaissance des dossiers que je n'ai eu que grâce aux confrères qui ont bien voulu me les donner parce que leurs clients les y ont autorisés. On a les éléments essentiels des pièces de ces dossiers. On sait ce qui se passe sur le plan juridique et on sait comment ces arrêtés sont attaqués par les poids lourds, sur quels motifs et autres, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire
pour tout
les,
à fait.
Voilà,
faut
pour les créer, pour il y a des normes dans les arrêtés, il y a des choses essentielles qui doivent notamment y être spécifiées. Est-ce que j'ai 2 minutes pour développer?
Ah oui, tout à fait, vous êtes ici
c'est au cœur du sujet, très bien. Alors,
c'est très intéressant.
Les arrêtés d'interdiction, si vous voulez, il y a des conditions de fond. C'est-à-dire que l'arrêté ne doit pas être disproportionné par rapport aux objectifs de protection de la sécurité publique et des riverains. Parce qu'il existe une liberté fondamentale qui est celle de circuler, qui est garantie par les États démocratiques et singulièrement une des valeurs fondamentales proclamées par l'Europe. Et cette libre circulation, elle est européenne. Libre circulation des marchandises et de ceux qui les transportent particulièrement. Donc vous avez cette liberté fondamentale qui doit être néanmoins conjuguée et qui peut être contradictoire avec la sécurité et la santé des riverains. Santé qui est un problème déterminant, qui doit être pris en compte par les magistrats quand ils ont à juger de ces recours que font les camionneurs contre des arrêtés d'interdiction. Alors donc, il faut motiver, si vous voulez, axer ces motivations sur la santé et la sécurité. C'est une question fondamentale qui justifie cette limitation qu'on demande de la liberté de circuler. Il faut deuxièmement, et c'est le corollaire de la liberté de circuler à ce moment-là, prévoir impérativement, sous peine de nullité de l'arrêté, ce qu'on appelle les itinéraires de substitution. Ça, c'est impératif. Si vous ne le prévoyez pas, vous faites annuler d'entrée. Donc, les itinéraires de substitution, il faut également prévoir des dérogations dans ces arrêtés qui tiennent justement au trafic local, c'est-à-dire à la desserte locale. Évidemment, et deuxièmement, à tous les cas où des plus de 7,5 tonnes peuvent venir pour des motifs d'urgence et autres. Donc tout ça doit être spécifié dans les arrêtés, je vous dis les points essentiels. Voilà, et tous ces points sont extrêmement importants parce que c'est ça le cœur de la discussion qui nous occupe aujourd'hui sur les arrêtés d'interdiction et les raisons pour lesquelles ne sont pas actuellement d'accord avec ce qu'il se passe. Et si vous voulez bien, nous allons en parler après.
Très bien. Donc, pouvez-vous nous parler toutes les deux de la pétition citoyenne ? Combien de signatures avez-vous à ce jour ?
Alors, sur les, nous avons lancé deux formes de pétition. Une pétition qui s'est faite donc de façon, comment dire, dématérialisée sur,
sur le site
change.org, mm-hmm. Qui a recueilli, selon, les chiffres que j'ai en tête, un peu plus de 500 signatures. Mais l'essentiel, si vous voulez, du travail de pétition, nous l'avons fait sur les commerces locaux, c'est-à-dire des pétitions papier. Où là, une très grande partie des riverains, très probablement de Manciette et de Nogaro, mmh. de Lupéviol aussi, c'était dans, chez tous les commerçants. Et là, nous en avons eu à peu près, selon nos pointages, un peu plus de 1500. Corinne, tu me corriges ?
En dessous de tes espoirs, on est à plus de 2100.
À 2100. Oui, mais au total. Au total. Avec change.org. Donc, ça fait 1500 sur ce pour papier.
Voilà.
C'est ça.
Oui, voilà.
C'est ça.
D'accord. C'est bien.
Donc, ça veut dire que, si vous voulez, la majorité des riverains, sont absolument, tous d'accord pour dire, on ne veut plus que cet axe soit une autoroute pour poids lourds. Alors, il y a un impact majeur, parce que les impacts sont sanitaires, parce que les poids lourds, ça dégage du CO2 et des particules fines. C'est un problème de santé publique, clairement. Les gens sont aujourd'hui, ont la fibre écologique, ils prennent conscience de ce que c'est que les gaz à effet de serre, mais ce qui est insuffisamment perçu, c'est très perçu dans les villes, parce que la pollution au CO2 est effrayante, en ce sens que le matin, vous êtes oppressé d'entrer. Il y a eu des pics de pollution cet été à Paris, à 34 ou 35 degrés, c'était... Vous le sentez tout de suite.
Oui, l'été en plus avec quand il fait chaud.
Voilà. En plus, ce que les gens ne savent pas, c'est que ces gaz à effet de serre ont tendance, sachant que les particules fines, qui sont ces particules qui sont dégagées par les diesels, qui sont infiniment microscopiques, quand elles rentrent,
on les voit pas à l'œil nu, quoi. Je veux dire.
C'est un poison. C'est un poison lent et c'est un poison invisible. Donc, les particules fines particulièrement ont été classées cancérigènes par le dernier rapport de l'OMS, le rapport mondial, de l'organisation sur, de l'organisation mondiale, sur la santé. Mm-hmm. Donc, c'est un problème absolument majeur. C'est d'ailleurs, nous avons insisté lorsque nous avons eu plusieurs réunions. Peut-être on y reviendra. On a dit que dans le cas des arrêtés qui devaient être pris ici, cette mesure-là par des bureaux d'études absolument qualifiés devait être prise, sachant que on sait techniquement que c'est quand les poids lourds décélèrent, et particulièrement au-delà de 90, au-dessous de 90, et particulièrement à 45 à l'heure. Lorsque vous avez des poids lourds qui circulent sur ce qui devrait être leur axe naturel, les autoroutes, s'ils circulent à 90, le taux de pollution, c'est-à-dire les gaz à effet de serre, le CO2, il diffuse beaucoup moins de CO2. C'est lorsqu'il décélère à 45 qu'il lâche à ce moment-là un maximum de CO2 et un maximum de particules fines. C'est-à-dire que sont concernés en réalité. C'est pour ça que le transit de ces poids lourds qui ne transitent par ces villages que parce qu'ils ne veulent pas payer les autoroutes.
C'est ça.
C'est ça le problème de fond. En réalité, lorsqu'ils sont à 30,
décélèrent
à 30 de l'église jusqu'à la place Jeanne d'Arc, là, ils lâchent un maximum de gaz. Sachant qu'en plus, et une autre caractéristique qui est discutée à Paris, c'est qu'il faut savoir à quel niveau d'élévation on prend les mesures de ces gaz à effet de serre et de particules fines, parce qu'ils ont tendance à stagner dans les villes à 1,50 m. Ce qui est exactement la position d'un enfant. Je veux dire, c'est à hauteur d'enfant et c'est à hauteur de bicyclette. C'est un poison... qui est un des problèmes, un des fléaux mondiaux aujourd'hui en termes de santé. C'est dénoncé partout. Voilà. Donc on a demandé que ces mesures soient prises, mais c'est pour quand même attirer l'attention des gens sur ces questions-là. Excusez-moi, c'est une question sur laquelle
je suis très,
très, très plongée. Voilà. Corinne me fait signe que youhou.
Donc, est-ce que vous avez organisé des réunions publiques ? Est-ce que vous allez en organiser d'autres ?
on a eu fait, oui, oui. Une réunion publique.
Vous aviez eu l'Assemblée générale, c'était à Mansiette, le 27.
À la création de l'association, oui. On a fait une réunion publique à Nogaro.
D'accord.
Ensuite, on a fait une AG à l'UPVIOL en juin 2018.
D'accord. Ah oui, je vais trop vite, moi.
Et
je suis déjà en 2019.
On a fait donc l'Assemblée générale à Mansiette, en mois de mai 2019.
Non, en mois d'avril, oui.
Au mois 27 d'avril, voilà. Je vois, samedi 27 avril.
Oui. Voilà. On doit dire que la presse, comment dire, particulièrement le journal du Gers, a toujours été, comment dire, a toujours couvert assez fidèlement, comment dire, ces réunions. Et on les en remercie parce qu'on a vraiment besoin de la presse et on vous remercie de nous recevoir.
Avec plaisir. Donc Corinne, je vois que c'était au mois de juin, vous étiez au marché de Nogaro. Pouvez-vous nous en parler?
Et oui, parce que bon, il faut pas non plus se faire oublier.
C'est ça.
Y a aussi les adhérents et les gens, les riverains qui ont besoin de savoir où nous en sommes. Donc ça a été aussi un point d'information, comme le forum au mois de septembre.
Des associations, oui.
Des associations qui a été pour nous un succès parce qu'on a eu quand même beaucoup de visites sur notre stand. Ça nous permet aussi de donner donc toutes nos informations annuelles et d'avoir la possibilité de ceux qui veulent adhérer
à l'association.
De faire une adhésion ce jour-là. Auquel je vous invite d'adhérer à nouveau. On manque toujours d'adhérents, ça c'est sûr, dans les associations.
C'est sûr. Donc Gascogne sans poids lourd bien forme un collectif avec d'autres associations.
Excusez-moi.
Il pleut. Je dis Gascogne sans poids lourd forme un collectif avec d'autres associations du Grand Sud-Ouest.
Non, on ne va pas dire ça comme ça. On a des associations qui sont effectivement intéressées par nous parce que bon, ils sont un petit peu plus petits et ils décident au jour d'aujourd'hui de plus ou moins nous rejoindre.
Oui.
On met ça sur du futur. Parce qu'on est impacté sur le même réseau routier.
Nous sommes en pourparlers. Nous envisageons de créer ou une fédération où ils vont rentrer directement dans notre association, puisqu'on s'appelle Gascogne sans poids lourd. On avait un titre prémonitoire.
Et au jour d'aujourd'hui, la dernière réunion que nous avons eue avec le conseil départemental, c'était vendredi dernier,
oui.
Le 18 octobre, à la mairie de Nogaro. Et là, je vais faire... passer la main à ma technicienne qui dévoilera le but de cette réunion qu'on a eue avec le conseil départemental, représentant de l'État et tous les maires riverains.
Alors, si vous voulez, on avait de grands espoirs et tout le monde les partageait parce que nous avons rencontré, en tant qu'association, le directeur général des services du GERS en mars dernier, qui nous a assuré notamment... que tout allait bouger en septembre et que un arrêté conjoint d'interdiction des poids lourds, on n'avait pas précisé le tonnage, mais peu importe, allait être pris entre le conseil départemental et les cinq maires concernés par comment dire ce trafic sur la départementale D931 et la petite départementale à côté. Donc, il était également convenu dans cette réunion. Ça ne posait pas a priori de problème. Pour nous, c'était une condition sine qua non et majeure. Que ces détournements, puisqu'il faut préparer des itinéraires de substitution, ne pouvaient être que sur les trois autoroutes. On avait bien analysé le trafic, c'est-à-dire autoroute A63, vous me corrigez, c'est-à-dire oui. Celle qui relie Bordeaux, Aquitaine, à l'Espagne et au Portugal, où il y a l'important trafic. C'est du trafic transnational, on y est en plein. Vous avez un autre trafic qui vient précisément aussi d'Espagne et du Portugal, qui passe par Bayonne, et qui, comme il est transnational, a vocation, on le postule à 60% à partir vers les cols transalpins, va via les Provences.
Oui.
Donc, ceux-là, évidemment, leur itinéraire naturel, et sans aucun détournement quelconque, c'est la nationale A64.
L'autoroute
à 64. Et nous avions vu que pour le trafic qui arrivait de Libourne, c'est-à-dire vers Angoulême, Libourne, et comment dire, et retour, qui faisait aussi du transnational pour rejoindre peut-être la Provence et là aussi l'école transalpin, c'était évidemment la 65. Donc, c'est ce que nous avons évoqué dans cette réunion avec monsieur, Rouquette, le directeur général des services du département, en mars. Et nous avons clairement dit, et nous le redisons, que comme nous sommes association Gascogne sans poids lourd, nous, on ne veut pas que des itinéraires de substitution soient d'autres départementales pour que d'autres riverains souffrent les nuisances que nous souffrons depuis 30 ans. On sera solidaire définitivement, on considère que les autoroutes sont les seules aires, et d'autant plus que l'humanité commande que les camionneurs, eux, ils aient des aires de repos adaptées par la place des arènes, de quoi, se laver et avoir une... Vraiment. Donc c'est un vrai problème humain aussi. Donc voilà, donc, nous avons été très déçus, voilà. Parce que tout ça avait l'air acté, nous l'avons diffusé à nos adhérents, nous étions rayonnants, on s'est dit, on va y arriver au bout de 30 ans. Et nous avions vraiment confiance. Monsieur Martin avait d'ailleurs réitéré absolument cette position de son DGS, et qui j'imagine, de toute façon, au moment où il nous a dit tout ceci, avait clairement un mandat pour le faire. Donc tout le monde, monsieur Martin, a réitéré ça dans la réunion du 12 avril, en disant, nous allons prendre ces arrêtés d'interdiction. Donc le 18 octobre, on est arrivé, on était convoqué en tant qu'association Gascogne sans poids lourd, on s'est présenté à trois avec Christian, Corinne et moi-même. Moi, je me suis dépassé spécialement de Paris, et on a été absolument interloqué de découvrir dans le cadre de cette réunion que il était question, on nous convoquait pour un arrêté provisoire d'interdiction de 2 mois et demi qui prendrait effet, Corinne, du 4 novembre au 15 janvier.
Pour les travaux d'Arblade-le-Haut.
D'accord.
Et s'arrêtant le 13 janvier.
Le 13 janvier. Et à notre question insistante, parce qu'on a vraiment insisté, parce qu'on ne savait pas ce qu'on faisait là, de savoir si cet arrêté provisoire, il allait être vraiment suivi d'un arrêté d'interdiction définitif, il n'y a pas eu de réponse.
Ah.
Il n'y a pas eu
c'est
de réponse.
C'est bientôt le 4 novembre.
Donc nous, on est en train de penser que c'est une désertion en pleine campagne par rapport à tout ce qui nous a été promis. Donc évidemment, on est sorti de cette réunion. Moi, le seul point que j'ai trouvé positif dans cette réunion, et qu'il faut signaler quand même, parce qu'il faut rester positif, moi je crois que ce combat, on va y arriver. Mais voilà, on a quelques doutes sur la volonté politique du conseil départemental aujourd'hui, parce que les maires ne feront rien sans le conseil départemental, on n'en veut pas aux maires. Mais on a des doutes sur la volonté politique du conseil départemental de tenir ses engagements.
Le souci, c'est que le 12 avril, Philippe Martin avait bien expliqué qu'il le prendrait conjointement avec les maires. Et vendredi matin, M. Rouquette a écarté complètement les maires.
D'accord.
Alors qu'ils sont quand même responsables de leur commune, de la sécurité de leur commune. C'est les premiers.
Alors, le point quand même positif, parce que je pense qu'on va arriver à quelque chose, c'est que se tenaient là, dans cette réunion, trois membres du gouvernement, c'est-à-dire, donc, si j'ai bien compris, assez haut placés au ministre des Transports. Et là, je les ai trouvés très très convaincants et très sérieux, et ils ont déclaré combien eux, ils étaient concernés par ce dossier, que le déclassement, il était en cours maintenant chez la ministre, la demande de déclassement de la voie, que ce dossier avançait, qu'ils étaient concernés et que la ministre elle-même, en tout cas, prenait ce dossier favorablement. Alors là, c'est un espoir. Parce qu'il faut savoir que même si l'arrêté des Landes a lui été annulé, le motif essentiel d'annulation de ce jugement qui est intervenu en février, vous savez, 2019, qui a annulé donc l'arrêté des Landes, alors on est juste mitoyen, mais le motif essentiel, c'était que précisément, sur le tronçon qui faisait l'objet d'une interdiction dans les Landes, il est classé à voie à
voie
grande circulation.
C'était quel tronçon ?
C'est un tronçon.
C'est ça,
ah oui,
ça,
voilà.
Ah oui, là aussi, ça roule.
Sur 73 kilomètres. Ils ont à peu près le même nombre de poids lourds. Moi, j'ai vu les comptages.
Aussi, ce sont les mêmes.
Voilà.
Ils passent par la D834, la D30. Ils détournent par R sur Adour, Barcelone-du-Gers.
Et après, ils arrivent sur Nogaro.
Voilà. Donc, il faut savoir, si vous voulez, que nous, on a un point davantage fondamental par rapport au Land, c'est que le dossier de déclassement, et vraiment ces gens me paraissaient sérieux, comment dire, du gouvernement, ils ont dit, voilà ce que je viens de vous dire. Donc nous avons dit dans cette réunion, où on n'était pas franchement content, on a dit écoutez, prenez vos responsabilités, ça ne sert à rien de faire des arrêtés provisoires, prenez un arrêté définitif, logiquement vous avez 18 mois comment dire, avant que ce soit jugé sur le fond, et vous avez un avantage par rapport au dossier qui a été soumis au tribunal administratif de Pau concernant les Landes, celui que je viens de vous dire.
D'accord.
La demande de déclassement qui n'a jamais été faite et qui n'est pas question de, pour l'instant, ce n'est pas dans les rouages du département des Landes.
On ne le sait pas, mais on ne l'a pas compris, en tout cas le dossier, voilà.
D'accord. Donc, pour suivre l'actualité de l'association Sans Poids Lourds en Gascogne, vous avez un site, je suppose. Est-ce que vous pouvez nous dire
association-gascogne-sans-poids-lourds.org.
Voilà. Ou même vous tapez l'association, vous y tombez dessus. Voilà.
Première ligne. Oui,
il y a beaucoup d'articles. J'ai regardé des articles. Il y en a, c'est vrai, Gascogne-sans-poids-lourds, il est très bien référencé.
Il est très bien référencé.
Est-ce que pour adhérer à cette association, comment ça se passe? Il faut vous contacter via le site?
Sur le site, il y a une adresse où on peut nous contacter par mail. Donc, dans ces cas-là, déjà, on peut avoir les premiers contacts. Et comme on ne fait pas de paiement en ligne pour sécurisation, après, on prend contact avec les adhérents.
Oui.
Et tout simplement, ils ont l'adresse de la place de la mairie avec l'association.
Il y a tous les renseignements, il y a tous les contacts.
Il n'y a pas de souci pour nous contacter.
D'accord.
Puis j'ajoute un petit mot.
Oui, allez-y.
Nous sommes encore dans les temps.
Oui.
Très bien.
C'est pas grave.
Alors, deux choses. Comme nous, nous sommes par nature et puis par intérêt aussi tout à fait optimistes. On sait que le dossier bougera. On sait qu'il faudra que, Nogaro ne soit plus et les environs des autoroutes pour poids lourds, que ça va dans le sens de l'histoire. Nous, on tient à ce combat. On le continuera.
Vous n'avez pas lâché.
On ne va pas le lâcher. Et donc, on se propose quand même de faire clarifier par le conseil départemental, peut-être que finalement, ils n'ont pas pris de décision définitive, qu'ils vont prendre un arrêté définitif. Donc, nous allons faire, nous allons adresser une lettre ouverte à monsieur le président du conseil départemental, en lui demandant aussi d'avoir la gentillesse de nous communiquer toutes les mesures techniques qui ont été prises par les bureaux d'études dans le cadre de ces procédures de déclassement qui seront aussi visées dans les arrêtés. Comme nous, on, tout citoyen a le droit de demander de toute façon la communication de documents qui sont en détention des collectivités territoriales, sauf secret défense, mais là, les poids lourds, ce n'est pas secret défense. Donc ça, c'est la première chose que nous allons faire et nous allons évidemment relancer nos pétitions. Sachant que...
Est-ce que vous allez remener une opération escargot?
Non, parce que nous n'avons pas a priori vocation à l'organiser parce que, comment dire, c'est une lourde opération. Il faut, évidemment, demander les autorisations aux préfectures, ça on est tout à fait capable. Mais il faut toute une logistique et autres. Et là, c'était monsieur le maire de Nogaro qui l'avait organisé. Il avait d'autres... Par contre, on fera une réunion publique et nous, on va intensifier nos campagnes de signatures, on va refaire une pétition.
Médiatiser,
absolument. Nous allons insister sur la médianisation de notre cause parce qu'on a le sentiment qu'on lutte, j'allais dire, pour une bonne cause. Une cause environnementale, écologique.
Surtout depuis quelques mois, il faut savoir qu'il y a même des personnes de l'État ou représentants de départements autres que notre grand sud-ouest qui mènent des batailles. Notamment sur la Nationale 10 où c'est d'une dangerosité, c'est 40 000 camions jour qui ne respectent rien. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est la France entière qui
est concernée.
Qui est concernée, tout à fait.
Oui, mais les solutions.
Mais nous, on lâchera pas.
Mais les solutions sont locales. C'est-à-dire, c'est ça le paradoxe, c'est que c'est un phénomène même européen. Il n'y a pas que les Français qui en souffrent. C'est un phénomène qui s'accentue. Parce que si vous avez vu un reportage que beaucoup de gens ont vu, c'est celui qui a été publié sur Arte. Putain de poids lourd, ça s'appelait. Incroyable. Le phénomène est terrible. Et vous avez des camions maintenant avec des sites qui s'organisent comme Amazon de livrer en une journée alors que les citoyens ne demandent pas tant. Ils partent quasiment à vide. C'est absolument scandaleux. Bon, alors donc le rail aura son rôle. Voilà. Mais il faut absolument savoir que c'est localement que ces problèmes se règlent.
Corinne ?
Tout à fait, mais moi je suis, je laissais Marianne dans les lampes pour tirer le mot de conclusion.
Oui, bon, quel message vous voulez faire passer
à nos auditeurs ? Tout simplement, c'est qu'on va continuer le combat. On a été fortement déçus, et on le répète, vendredi matin. On n'a même pas compris ce qu'on faisait là, pour simplement un arrêté provisoire. Nous, on n'est pas là pour les arrêtés provisoires, mm-hmm. on est là pour des arrêtés définitifs. Qui soit département et maire, parce que je pense que même deux arrêtés, ça serait pas mal au lieu d'un.
Je pense qu'il faut un arrêté conjoint. Mais
un arrêté conjoint, mais il faut qu'il soit fait dans les deux cas. Et j'espère qu'on va avoir une bonne suite à tout ça.
Voilà. Eh bien, très bien. Donc, vous nous tiendrez informés de l'avancée.
Avec plaisir.
Voilà, n'hésitez pas à revenir dans les studios. Eh bien, Corinne et Marianne, je vous remercie d'être intervenues sur nos ondes.
Mais c'est nous qui vous remercions.
Et vous nous tenez informés.
Voilà. Merci beaucoup.
À bientôt. Merci.
Allez, au revoir.
Loisirs.
Détente.
Spectacle. Tout le programme festif de votre week-end.
En quelques minutes sur RDA.
Écoutez tous les vendredis
l'émission La vie locale.